Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Le président sud-africain à Kinshasa hier, une visite notamment pour appuyer la riposte contre Ebola avec 13,5 millions de dollars. Ali Narbi a pu se rendre compte du travail de lutte qui est mené et qui a permis la guérison de plus de 200 malades. Accompagné de Félix Tshisekedi, il a aussi été tenu au courant des défis qui restent à relever pour mettre fin à cette épidémie. La MONUSCO et le gouvernement renforcent leur collaboration en faveur de la protection des civils dans les zones en conflit dans l'est de la RDC. La question a d'ailleurs été au centre d'un entretien hier à Kinshasa entre le chef de la mission onusienne et le vice-premier ministre de la Défense nationale. Vous savez, la RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda, l'accusant de violer plusieurs conventions internationales. Cette démarche a fait l'objet des échanges entre les intervenants dans Dialogue entre Congolais hier. Leur analyse dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Kinshasa hier. C'est pour une visite de solidarité de travail axée sur le renforcement de la riposte contre l'épidémie d'Ebola et l'aide humanitaire. Il a été accueilli à l'aéroport international de N'Djili par la première ministre avant d'être reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine pour un tête-à-tête. Les deux personnalités se sont rendues ensemble à l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, pour évaluer la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Benjamin Moudoumbi pour les détails.
Devant plusieurs partenaires nationaux et internationaux, les membres du gouvernement congolais ainsi que la délégation sud-africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi est revenu sur l'environnement dans lequel la riposte est effectuée. La santé et la sécurité étant indissociables, Félix Tshisekedi.
Cette épidémie rappelle que la sécurité sanitaire est désormais indissociable des enjeux de paix, de stabilité et de sécurité humaine. Dans les zones affectées par les conflits armés, l'insécurité fragilise la prévention, l'accès aux soins, la surveillance épidémiologique et la réponse rapide aux urgences de santé publique.
De son côté, le président sud-africain a, dans son speech, déclaré, je cite, « Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité auprès du gouvernement et la population de la République démocratique du Congo. Le pays et sa population traversent ces moments difficiles, faisant face à cette épidémie avérée Ebola. » Fin des citations. Il a aussi salué les travaux effectués par les scientifiques, les organisations ainsi que les acteurs qui travaillent sans relâche dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Malgré les défis significatifs liés notamment à la sécurité et à la réponse humanitaire dans la riposte, à ce jour plus de 200 personnes autrefois atteintes d'Ebola sont déclarées guéries.
Et la lutte contre la maladie à virus Ebola fait aussi partie des priorités actuelles de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Selon son directeur des opérations ici au pays, un montant de 46 millions de dollars américains a été décaissé pour appuyer diverses activités liées à la riposte dans 35 zones de santé affectées par cette épidémie. Albert Zufak l'a dit hier jeudi lors d'un café de presse à Kinshasa. Il précise que ce financement s'inscrit dans l'approche systémique adoptée par son organisation, approche qui consiste à consacrer environ 1% de son portefeuille aux actions d'urgence du gouvernement. Dr Traoré Adama, affecté aux activités de la santé au sein de la Banque mondiale en RDC, revient ici sur l'impact de ces fonds décaissés sur les activités menées sur le terrain. Il est au micro de Ronaldine Tibonera.
Nous avons déployé des équipements de laboratoire, des réactifs en appui au laboratoire provincial de santé publique de Congo. Livraison de 340 tonnes de médicaments et d'équipements pour la prise en charge des patients et la continuité des services. Acquisition des batteries pour le renforcement des kits du système photovoltaïque du laboratoire de santé publique de Congo. Appui à la décentralisation des laboratoires, au soutien à la biologistique et au transport des échantillons. Livraison de 10 plateformes Radio One et de 40 000 tests Radio One pour le diagnostic spécifique de la souche Bundibundi. Il y a une livraison attendue dans les prochains jours de 94 plateformes Radio One et de 30 000 tests additionnels. Acquisition en cours d'équipements et d'intrants nutritionnels au profit des divisions provinciales de la santé de l'Ituri et du Nord Kivu. Acquisition en cours de 10 véhicules destinés à la surveillance épidémiologique.
Et parlant de ce début de réponse, à Bounia, un centre de santé destiné à la prise en charge des personnes déplacées est opérationnel depuis hier au site de Kigonze et qui accueille près de 17 000 déplacés. Cette structure doit également faciliter le dépistage des cas suspects d'Ebola dans ce site où des décès sont enregistrés presque quotidiennement. En parallèle, un centre de transit pour les malades d'Ebola est en cours de construction sur place. Les gestionnaires du site saluent ces nouvelles initiatives. Depuis Bounia, Isaac Rémo nous apporte plus de précisions.
Depuis le début de l'épidémie, des décès sont régulièrement enregistrés aussi des déplacés de Kigonze, dont certains liés à Ebola. Ce jeudi, 3 personnes sont mortes avant midi. Pour améliorer la prise en charge, le gouvernement et ses partenaires ont ouvert un centre de santé au 110 sites. Cette structure assurera les soins de santé primaires, le dépistage des cas suspects d'Ebola et leur orientation vers les centres spécialisés. Un centre de transit pour les malades d'Ebola est également en cours de construction. Les gestionnaires d'ici saluent ces initiatives qui, selon eux, permettront de réduire la mortalité et de renforcer la lutte contre l'épidémie.
Nous étions très préoccupés par la nécessité d'installer un centre de santé sur le site afin de permettre aux déplacés d'être pris en charge rapidement car les autres structures sanitaires sont déjà saturées. Certains malades tardaient à recevoir des soins faute de place. L'ouverture de ce centre répond donc à une préoccupation de tous les déplacés. Désormais, lorsqu'une personne tombe malade, elle peut s'y rendre rapidement pour être soignée.
En revanche, dans d'autres sites de déplacés, notamment celui de l'ISP à Bounia qui héberge environ 13 000 personnes, les mesures de prévention contre Ebola restent encore insuffisantes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et nous continuons de parler de la lutte contre la maladie à virus Ebola à Beni, au Nord Kivu cette fois. Les services de sécurité ont lancé mercredi une opération visant les conducteurs de moto-taxis qui transportent plus d'un passager à la fois. Selon les responsables des associations des motards, cette mesure vise à renforcer le respect des dispositifs de prévention contre la propagation de la maladie. Ils appellent ainsi leurs membres à s'y conformer, rappelant que l'épidémie continue de faire des victimes dans la région. Samuel Kachalou, l'un des conseillers de corporation des mototaxis de Beni, est ici au téléphone de Marc Marofimbo.
Ce qui est vrai que la loi autorise le transport de deux personnes sur une moto, donc le chauffeur et son passager. Mais la conjoncture actuelle de la vie nous contraint de transporter trois ou quatre personnes sur une moto. Les autorités viennent de nous l'interdire compte tenu de la maladie à virus Ebola et nous demandent de respecter ce que disent les professionnels de santé. Nous devons nous efforcer à toujours nous laver les mains et éviter de s'attaquer au personnel soignant, surtout nous, taximens, car nous sommes aussi victimes. Rappelez-vous que le premier décès lié à Ebola au Nord Kivu fut un taximen qui avait fui de la province de l'Ituri. Nous sommes priés de respecter les mesures barrières. Déjà, la police est instruite pour traquer tout taximen qui prendra plusieurs passagers sur une moto. Il devra payer des amendes selon la loi et là, pas de discussion. Je tiens encore à nous rappeler que la maladie est parmi nous. Lavons-nous les mains et si on a les moyens d'acheter un désinfectant, tant mieux. Il nous faut prévenir plutôt que guérir.
Les responsables des corporations du mototaxi invitent les conducteurs à observer strictement les mesures barrières et à accompagner les efforts des autorités sanitaires dans la lutte contre cette épidémie. Et c'est pendant ce temps que le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, CIMECO, décrète la grève dans tous les services du lift de l'État à partir d'aujourd'hui vendredi. C'est ce qu'indique une correspondance que cette structure a adressée à la première ministre et dont une copie est parvenue à Radio Okapi. On écoute à ce sujet le secrétaire général de CIMECO, Dr. Juvenal Mwanda. Il explique leur démarche dans cet extrait que nous propose Jude Mister Bilanda.
Le CIMECO a déposé le 25 juin 2026 un préavis de grève à son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, tout en espérant bien sûr avoir des négociations crédibles pour rencontrer, tant soit peu, les attentes sociales minimales de médecins. Il s'est fait malheureusement que ce préavis de grève a expiré ce 1er juillet 2026 sans la moindre réaction du gouvernement de la République. En conséquence, le CIMECO décrète la grève dans tous les services publics de l'État dès ce vendredi 3 juillet 2026 à 8h. Seules les urgences seront assurées aux jours et heures prévus par les horaires des services établis.
Comme annoncé en titre, la MONUSCO et le gouvernement renforcent leur collaboration dans les efforts déployés en faveur de la protection des civils dans les zones nord de conflit dans l'est de la RDC. La question a été au centre d'un entretien organisé hier à Kinshasa entre le patron de la MONUSCO et le vice-premier ministre de la Défense nationale. James Swan et Guy Kabombo ont aussi évoqué les priorités opérationnelles et stratégiques de la mission onusienne dans cette partie du pays. Dédité avec Blaise Ndongala.
À l'issue de cette audience, les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU a révélé que plusieurs autres questions ont été abordées, notamment la démobilisation, le désarmement des groupes armés, l'appui à la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que le soutien au mécanisme de suivi du cessez-le-feu stipulé dans l'accord de Doha. Dans ce contexte de crise sécuritaire qui s'étend également au niveau régional, la MONUSCO attend contribuer à la mise en œuvre du mécanisme conjoint de vérification élargie, notamment par un appui logistique destiné à faciliter les déplacements des délégations. James Swan.
Souligner aussi nos principaux mandats par rapport à la situation sécuritaire, c'est-à-dire la protection des civils, les efforts par rapport à la démobilisation, désarmement et réintégration des groupes armés, notre appui à la réforme du secteur de la sécurité. Et en outre, depuis décembre, nous avons un nouveau mandat consacré à nous par le Conseil de sécurité pour appuyer les mécanismes de monitoring et de vérification du cessez-le-feu.
De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a souhaité une mise en œuvre efficace des priorités de la MONUSCO pour la stabilisation et le soutien aux initiatives de retour durable de la paix en RDC. Cette rencontre intervient alors que la RDC assure la présidence tournante du Conseil de sécurité pour ces mois de juillet.
Et face à la menace persistante des rebelles ADF dans l'Est et le Nord-Est de la RDC, les autorités congolaises veulent renforcer la riposte. Réunis depuis hier jeudi à Kisangani, les responsables sécuritaires des 5 provinces touchées travaillent à l'élaboration d'un plan régional d'éradication de ce groupe armé actif de Litori au Nord Kivu, en passant par certaines zones de la Tchopo et du Haut-Tuélé. La rencontre est présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Elle vise à mieux coordonner les opérations et à renforcer la coopération entre les provinces concernées. Des détails avec Grace Amzati.
Les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, de la Tchopo, du Haut-Uele et du Bas-Uele veulent désormais parler d'une même voix face à la menace des rebelles ADF. Réunis à Kisangani autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, les gouverneurs et les responsables des comités provinciaux de sécurité évaluent l'évolution de cette menace qui continue de faire des victimes, notamment dans les territoires de Beni, d'Irumu, de Mambasa et dans plusieurs zones frontalières. L'objectif est de jeter les bases d'un plan régional d'éradication des ADF et de renforcer la coordination des actions entre les provinces les plus touchées par les incursions de ces groupes armés. Les travaux portent notamment sur l'actualisation de la cartographie des zones les plus exposées, le partage des renseignements recueillis sur les terrains ainsi que l'identification des besoins logistiques des forces engagées. Une attention particulière est également accordée aux couloirs forestiers empruntés par les ADF pour leurs déplacements. À ce titre, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICSN, a été associé aux travaux. L'établissement public est appelé à contribuer à la surveillance des aires protégées, à appuyer les opérations de mobilité et à renforcer la sensibilisation des populations vivant à proximité de ces espaces. Les conclusions de cette rencontre devraient servir de base à une stratégie régionale plus coordonnée contre les ADF.
Dans le territoire de Faradje, province du Haut-Uele, le chef de la chefferie de Logo Ogambi appelle la population à reprendre le travail et à miser sur l'entrepreneuriat. Un appel lancé mercredi à l'issue de la visite d'itinérance du gouverneur de province dans cette entité. Selon cette autorité coutumière, l'emploi des jeunes constitue un levier pour faire face aux défis sécuritaires et économiques de la région. Précision de Jean-Claude Lokidile.
Retroussons nos manches et remettons-nous au travail. C'est en ces termes que le chef de la chefferie de Logo Ogambi, Obote Sirika, encourage les jeunes à se tourner vers l'élevage, l'agriculture et d'autres activités génératrices de revenus. Selon lui, produire localement permettrait non seulement de réduire la dépendance aux importations, mais aussi de mieux faire face aux difficultés que traverse la région.
Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, une seule tomate fraîche coûte 1000 francs congolais sur le marché de Drouba. À cause de l'épidémie d'Ebola, les frontières avec les pays voisins sont fermées. Il devient difficile de trouver de la viande de porc et les poulets se font rares. Les jeunes, pourquoi avoir honte de se lancer dans l'élevage ou dans l'agriculture? Nous devons produire pour combattre la faim.
Le territoire de Faradje est confronté à plusieurs défis. Les populations dénoncent les dégâts causés aux cultures par les troupeaux des éleveurs étrangers Mbororo, une situation qui fragilise davantage les moyens de subsistance des ménages. Le chef de la chefferie de Logo Ogambi a également invité les habitants à respecter les mesures de prévention contre Ebola. Il les appelle à rester vigilants afin d'éviter toute propagation de la maladie dans son entier. Alors que la province voisine de l'Ituri est confrontée à une nouvelle épidémie. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Dans l'enseignement, plusieurs établissements scolaires de la RDC ont clôturé hier 2 juillet l'année scolaire 2025-2026. Dans la commune d'Ngalima à Kinshasa, l'école bilingue Pretty International School a organisé une cérémonie pour marquer cette clôture en beauté malgré les difficultés liées au terrain marécageux où se trouve l'établissement. L'événement a rassemblé des responsables de l'école, des enseignants, parents et élèves. Ensemble, ils ont passé en revue le déroulement de l'année scolaire et célébré le parcours de chaque élève. Reportage, Séphorin Paka.
Malgré le vent sec de la saison sèche, l'ambiance était festive. Enseignants, élèves et parents ont partagé un moment de convivialité, rythmé par les discours, des poèmes et des scénettes préparées par les écoliers. Une écolière s'exprime.
Chaque jour, c'était quelque chose de nouveau à apprendre. J'ai appris à lire, à écrire. Je me suis perfectionnée, comme la physique, la chimie, plusieurs autres cours. Et je remercie aussi vous, les autorités de l'école.
Les parents ont manifesté leur soutien et leur satisfaction.
J'ai vu ma fille, comment est-ce qu'elle a évolué durant toute l'année. Mon enfant parle français, parle aussi l'anglais. Pour moi, vraiment, c'est une fierté.
Les coordonnateurs de la Fondation Poetry International, Héritier Katamboa, a salué les avancées significatives enregistrées au cours de l'année et souhaite un accompagnement de la part du ministère de l'Enseignement.
Et tel que vous venez de constater, il y a nos enfants qui s'expriment déjà en anglais. D'ailleurs, c'était notre objectif, former les enfants, non seulement en français, mais aussi en anglais. Mais nous comptons améliorer encore, afin de bien équiper nos enfants pour une très bonne intégration au niveau de la société. Nous sommes une fondation, que le ministère puisse nous accompagner.
Cette clôture de l'année scolaire illustre la détermination des acteurs éducatifs de Kinshasa à bâtir une société d'élite où l'accès à l'éducation demeure un pilier essentiel pour l'avenir du pays.
Actualité internationale.
C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a annoncé cette semaine. Une épidémie de choléra sévit depuis mai dans des zones de guerre isolées au Soudan. Le bilan en fait état de 120 morts et 1102 cas suspects.
L'invité.
La RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda. C'était vendredi 27 juin. La RDC accuse le Rwanda de violation de plusieurs conventions internationales. Cette démarche a fait l'objet des échanges entre les intervenants dans Dialogue entre Congolais hier. On les écoute ici au micro de Guy Maté.
Kibangu Kalala, vous êtes professeur de droit international et spécialiste en droit public. Vous êtes l'un des anciens avocats ayant plaidé dans l'affaire RDC contre l'Ouganda à la Cour internationale de justice. Comment vous analysez cette démarche de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de la justice?
Je salue l'action entreprise maintenant par le gouvernement pour faire en sorte que le Rwanda puisse répondre de ses crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, de massacres épouvantables, et que le Rwanda soit condamné à indemniser ses victimes, comme nous l'avons fait à l'égard de l'Ouganda. Nous sommes au cœur, si vous voulez, de ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme. Les conventions que vous citez là font partie de ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme. En 2002-2006, la RDC avait déjà invoqué la violation des mêmes conventions. Je vois que le gouvernement revient encore avec la même argumentation contre ces instruments.
Qui avait été rejeté à l'époque.
Oui, à l'époque, c'était rejeté. Bon, j'ose espérer que cette fois-ci, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas aller commenter la requête qui vient à peine d'être déposée. L'affaire se trouve en justice, devant la Cour internationale de justice. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais toujours est-il que la requête reprend, justement, des critiques sévères contre le Rwanda. Et depuis 2006, ça fera bientôt 20 ans. Donc, le Rwanda n'a fait que commettre des crimes, ne fait que violer justement ces conventions internationales et sans conséquence, sans sanction, sans punition, impunité totale. Vous comprenez? Et donc, maintenant là, il faut faire en sorte que cette fois-ci soit la bonne. Et donc, j'ai salué d'abord l'action du gouvernement, l'ouverture de ce front judiciaire devant la Cour internationale de justice contre le Rwanda, qui doit être puni, qui doit réparer les crimes abominables qu'il est en train de commettre dans notre pays où nos populations souffrent, sont massacrées par les troupes rwandaises, vraiment dans l'impunité la plus totale.
Merci, Monseigneur Pax André-Marie Kito Masimango. Vous êtes coordonnateur national de la Coalition nationale pour la CPI-RDC. Vous êtes aussi coprésident du réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités et aussi coordonnateur régional Afrique de la Coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. Comment vous réagissez à cette plainte de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de justice?
Nous pensons que, nous soulignons que, la Cour internationale de justice avait déjà répondu, la RDC, par rapport à tous ces éléments. Et sa conclusion était plus simple. La Cour internationale de justice s'est reconnue incompétente à pouvoir statuer sur la situation pour la simple raison que les Rwandais n'avaient pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice. Et voilà, ça c'était déjà une réponse, et cette réponse de la Cour constitue déjà une jurisprudence depuis l'arrêt de 2006. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 ans. Je ne sais pas moi si, à partir de ces 20 ans, on pourrait nous dire qu'il y a des éléments nouveaux qui puissent renverser cette jurisprudence de la Cour internationale de justice.
Merci. Regen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Quelle lecture vous faites-vous également de cette plainte de la RDC contre le Rwanda à la Cour internationale de justice?
Je voudrais aussi dire que j'ai aussi une nuance en ce qui concerne la pertinence ou même peut-être les chances de réussite de cette procédure. Donc, c'est sûr que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour et ainsi, dans l'arrêt passé, la Cour s'était déclarée incompétente à l'égard du Rwanda. Et cet obstacle juridique est malheureusement encore là, ce qui m'amène à penser que les juristes qui ont conseillé la République dans cette procédure le savaient aussi. Et je pense qu'ils l'ont fait en essayant de plutôt d'avoir un autre gain. Je pense que c'est le gain politique. Donc, j'ai comme l'impression que, bien sûr, on utilise les outils juridiques, mais pour un gain politique, je pense que c'est justifiable étant donné la réalité du terrain, sachant que les obstacles juridiques sont là, mais quand même savoir tout simplement qu'au moins il y a eu une procédure devant la Cour.
Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Jude Mister Bilanda avec Alain Goy à la mise en onde. Bon début de week-end.